Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Après Avignon, après Rambouillet, le gouvernement hausse donc le ton contre les agresseurs de policiers ou de gendarmes. À l'issue d'une réunion hier soir avec les syndicats de policiers, Jean Castex a promis un durcissement des sanctions, Louis Dragnel.
Oui, un objectif pour Jean Castex, montrer les muscles et le faire savoir. Avec notamment une mesure forte, l'instauration d'une peine de sûreté de 30 ans pour un crime commis contre les forces de l'ordre. Ça veut dire concrètement un alignement sur les peines encourues par les auteurs d'actes terroristes. Jean Castex compte aussi limiter les possibilités de réduction de peine et punir plus fortement les refus d'obtempérer sans donner plus de précision. Le Premier ministre veut abroger le rappel à la loi. Désormais, les amendes forfaitaires et les travaux d'intérêt général seront encouragés. Enfin, un observatoire de la réponse pénale sera créé, mais c'est un organisme qui existait déjà au début du quinquennat avant d'être supprimé par Emmanuel Macron. Sur le papier, des annonces fermes, mais qui méritent d'être précisées, ce sera l'objet d'un projet de loi défendu par le ministre de la Justice. L'enjeu pour Jean Castex est avant tout politique, montrer qu'il reprend personnellement en main les questions de sécurité et de justice et éviter que sur ses préoccupations, la droite et l'extrême droite apparaissent plus crédibles que la majorité actuelle.
Et à l'issue de la réunion à Matignon hier soir, les syndicats de policiers ont salué l'intention du Premier ministre. Ils attendent maintenant du concret, à l'image de Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Sentiment d'une prise de conscience de l'exécutif avec un Premier ministre qui a dit que la cocotte était prête à exploser, la cocotte minute prête à exploser, puisque nous avons eu notre société qui dérive depuis 30 ans. Il n'est plus possible aujourd'hui que des policiers, mais aussi des infirmières, des enseignants, se fassent agresser quotidiennement des serviteurs de l'État. Donc, il nous a laissé la parole, nous avons exprimé notre demande de réponse pénale forte. Nous avons eu des premières propositions qui ont été faites, des pistes de travail sérieuses. Maintenant, il va falloir qu'elles rentrent en application rapidement, parce que nos collègues attendent du concret. Il y a eu beaucoup de mots par le passé. Là, nous attendons du concret.
Et le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure qui maintient par ailleurs un appel à manifester devant l'Assemblée nationale mercredi prochain.
Le 19 mai, oui. Le 19 mai, c'est aussi la prochaine étape du déconfinement dont les modalités sont précisées ce matin par Jean Castex.
Le Premier ministre, décidément sur tous les fronts, dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Il explique notamment que les bars et restaurants ne pourront, dans un premier temps, ouvrir leurs terrasses qu'à la moitié de leur capacité. Il va encore falloir tout repenser pour ce restaurateur parisien rencontré par Pierre Herbulot pour Europe 1.
Ça va être engagé pas mal de moyens pour du coup pas grand chose quoi. Si on peut mettre que je sais pas 10 ou 15 personnes en terrasse au lieu de 20 ou 30, ça risque de changer la donne. Ou alors on va essayer de s'adapter avec nos clients pour qu'ils mangent à des horaires différents dans d'autres sortes de timings quoi. C'est faire venir plus de personnel, engager plus de moyens. Donc maintenant vous me dites que du coup on va faire 50% de ça, ouais c'est on doit tout repenser quoi.
Et dans ces conditions, selon les représentants du secteur, certains pourraient même renoncer à rouvrir avant l'autorisation de réouverture. Ouverture totale des terrasses, ça ce sera le 9 juin prochain.
Le déconfinement, quelles conditions, à quelle date? Tous les détails du calendrier sont à retrouver sur notre site internet europe1.fr.
De leur côté, les commerces devraient pouvoir bénéficier de dérogations pour pouvoir ouvrir le dimanche. La ministre du Travail appelle les préfets à organiser des concertations locales. Et sur la route du déconfinement, il sera un précieux atout, le pass sanitaire validé hier soir par les députés. Le dispositif permettra d'assister à des concerts, des salons ou des événements sportifs à partir du moment où il rassemble plus de 1000 personnes. Le pass sanitaire qui nous permettra aussi de voyager dans les prochains mois.
L'été qui se prépare dès à présent avec cette opération séduction lancée aujourd'hui par le ministère du Tourisme à moins d'un mois de la réouverture des frontières. Il s'agit de se rappeler aux bons souvenirs des touristes européens.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Le tourisme en France avant crise, c'était 7% du PIB. Relancer l'attractivité auprès des étrangers, ça fait donc aussi partie finalement de la relance de l'économie. Ça va aller mieux cette année, Carole, ou pas?
Écoutez, normalement, en tout cas, pour vous donner une idée, on attend 20 à 40% de touristes étrangers de plus que l'an dernier, selon Atout France, c'est l'organisme chargé de promouvoir la destination France à l'étranger. Les réservations sont d'ailleurs en nette hausse depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des frontières. Mais on est quand même encore loin du compte pour le moment, car certes, nous sommes prêts à les accueillir, mais eux ne savent pas toujours s'ils pourront venir. Je vous donne un exemple. Les Belges ont droit de sortir de chez eux, mais on leur déconseille plusieurs régions françaises classées rouges au Covid. Vous avez également les Britanniques, qui représentaient 15% du tourisme étranger en France avant avant la crise. Eh bien, ils ne savent toujours pas s'ils pourront venir en France sans quarantaine à leur retour cet été. Pareil pour les Allemands ou encore les Néerlandais. C'est le cas de Franz Hein qui a prévu de passer le mois d'août en Dordogne.
J'y pense tous les jours. J'aimerais pouvoir sortir de mon appart, de la ville d'Amsterdam, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais ça serait bien de prendre l'air en France. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer pour les règles aux Pays-Bas, si on aura le droit de sortir du pays. Donc ça va être dernière minute, je pense.
Autre frein, le test obligatoire pour voyager. Et oui, car on oublie une chose, Marion, c'est que tous les pays n'ont pas comme nous des tests PCR gratuits. Et à 80 euros le test en moyenne, ça fait vite grimper le budget d'une famille.
Et toutes ces incertitudes pour les touristes, elles se répercutent évidemment sur les professionnels.
Oui, c'est ce qu'explique Jean-Guy Amat, par exemple. Il dirige un camping dans l'Hérault qui accueille essentiellement des Allemands et des Néerlandais.
Le problème, c'est qu'on est obligé également, pour rassurer les clients, de leur offrir des conditions d'annulation extrêmement favorables, ce qui fait que si les clients annulent, c'est de la perte sèche pour nous. On est véritablement dans une situation où, à tout moment, on peut basculer de planning plein à un planning totalement vide.
En fait, ceux qui sont sûrs de pouvoir venir, c'est ceux qui sont vaccinés. On attend par exemple beaucoup d'Américains qui ont une campagne de vaccination très efficace. Pour le reste, le gouvernement doit publier d'ici la fin du mois la liste des pays dont les habitants seront autorisés ou non à venir passer l'été en France.
Et l'enjeu du tourisme d'ailleurs est tel que la Grèce est aussi en pleine campagne de promotion. Le ministre grec du tourisme à Londres depuis hier pour une visite de 3 jours. La bataille pour l'été est donc lancée. Dossier signé Carole Ferry pour Europe 1.
7h08, le Proche-Orient s'embrase à nouveau et le Premier ministre israélien prévient le conflit actuel pourrait durer un certain temps.
Des affrontements liés à un projet d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens à Jérusalem-Est. Les violences ont débuté la semaine dernière et redoublé ces dernières heures, comme nous le raconte Gwendoline de Bonneau sur place pour Europe 1.
Depuis l'aube, des ambulanciers courent sur les pierres lisses qui mènent à l'esplanade des mosquées pour évacuer les blessés. La police israélienne, elle, évacue les fidèles du site après les affrontements.
On était assis dans la mosquée Al-Aqsa. Des policiers sont entrés, ils ont jeté du gaz lacrymogène, tiré des balles en caoutchouc et ils nous ont virés. Mais beaucoup de jeunes ont pu rester à l'intérieur.
Il n'est pas encore midi et près de 200 personnes sont hospitalisées. Cet ambulancier fonce dans son véhicule.
Aujourd'hui, c'est le pire. On a des blessures à la tête, des blessures aux yeux, beaucoup de blessures aux yeux.
Devant l'un des accès à la mosquée Al-Aqsa, de jeunes Palestiniens s'énervent contre la police, ulcérés de ne pas pouvoir accéder au site. L'un d'eux, hors de lui, approche son front du casque d'un officier. La réponse est presque immédiate. Des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes sont tirées. À l'autre bout de la vieille ville, des nationalistes juifs célèbrent en chantant la conquête de Jérusalem par Israël. La police leur interdit de passer par les quartiers musulmans. En fin d'après-midi, une pause dans les accrochages. Tout le monde regarde le ciel, des sirènes retentissent, des roquettes viennent d'être tirées sur Jérusalem pour la première fois depuis 7 ans.
Gwendoline de Bonneau pour Europe 1 et ce matin, Israël dit avoir frappé 130 cibles militaires à Gaza et tué 15 militants de groupes armés palestiniens. L'Union européenne, de son côté, a appelé hier à la fin immédiate des violences.
Michel Fourniret, liaison maudite avec les Ardennes. Ce titre, il barre la une ce matin du quotidien L'Ardennais, au lendemain de la mort du tueur en série à l'âge de 79 ans.
Oui, son surnom même le lie à ce territoire, l'ogre des Ardennes, un département où des fouilles étaient encore réalisées il y a 10 jours pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, précisément à Ville-sur-Lume, où s'est rendu Maximilien Carlier pour Europe 1.
C'est un village de 500 habitants, une église, une école et une grande maison blanche située au bout d'une allée en gravier. C'est là qu'Estelle Mouzin a été séquestrée. Ludovic, un riverain.
C'est vrai que quand on passe devant cette maison-ci, quand on sait ce qui s'est passé, ça fout un coup quand même, quoi.
Michel Fourniret a été aperçu ici au début des années 2000. Et quand on évoque la mort de l'ogre des Ardennes, des habitants comme Grégory en parlent très franchement.
On est barrant, par rapport à ce qu'il a fait. C'est malheureux parce qu'il a emmené le secret avec lui, quoi. On n'a pas retrouvé la gamine, quoi.
Malgré les fouilles ces derniers mois, à plusieurs endroits, Christophe regrette d'ailleurs cette mauvaise image associée aux communes alentours.
Le problème, c'est que c'est un beau petit secteur parce qu'il n'y a pas que Ville-sur-Lume. Il y a Issancourt qui est impacté. Un peu plus loin, il y a le château du Sautou. C'est des beaux petits coins sympas dans les Ardennes. Et quand on en parle, c'est son nom qui ressort. Donc c'est un peu dommage, quoi.
Des riverains qui espèrent qu'avec le temps, on oubliera que Michel Fourniret a séjourné dans ces villages. Ville-sur-Lume, Maximilien Carlier, Europe 1.
Dans le Var, les habitants de Brignoles ne verront peut-être pas tout de suite débarquer Georges Clounet. On vous avait parlé de ce domaine de 170 hectares acheté par l'acteur. Une acquisition aujourd'hui contestée en justice par un autre acheteur qui assure avoir signé la vente en août dernier pour 6 millions d'euros.
Ah oui, merci beaucoup Marion Calais. On attendra pour Georges Clounet, on verra du coup du côté de Brignoles dans le Var. Merci Marion Calais, il est 7h11.